Merci, merci Emmanuel, tu fais bien ça. Moi, je suis d'avis que tous les dimanches, elle fasse les annonces et les offrandes. Waouh! Ce matin, c'est un privilège pour moi d'être avec vous et de vous partager ce que Dieu a déposé sur mon cœur. J'aime bien prier, alors je vais prier pour ce partage. Seigneur, ce matin, je veux te dire merci, que nous puissions être sensibles à ta parole, être de ceux qui l'accueillent et qui la gardent dans leur cœur, afin qu'elle porte le fruit pour lequel tu l'as envoyée. Seigneur, je te bénis, Père, ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais ce matin vous parler d'un personnage biblique et je réalise que j'aime parler des personnages bibliques. Ils sont inspirants. Leur histoire de vie est bouleversante et des fois c'est bon de tâcher de se positionner dans leur contexte afin de saisir ce qu'ils ont vécu. Et je crois que ce matin, cette pensée peut à un certain niveau être prophétique pour ta vie, déclarer ce que Dieu dit sur ta vie. Et en ce moment, je suis en train de découvrir Néhémie. Je lisais et j'écoutais aussi, je lisais le livre de Néhémie, mais je l'écoutais aussi en Bible audio. Et des fois, quand on se permet à la fois d'utiliser plusieurs plateformes, plusieurs supports, que ce soit le support visuel de lire ou un support auditif d'écouter, il y a des éléments qui ressortent. Quand on change de version, de traduction de la Bible. Il y a des éléments qui ressortent aussi du texte. Et je découvre que Néhémie, c'était tout un monsieur, tout un bonhomme, un homme de caractère, mais un homme qui était surtout attaché à Dieu. Et j'ai aimé l'allusion que notre sœur a faite concernant ce verset qu'on peut retrouver dans Luc chapitre 10, au verset 27. Il n'est pas dans les diapositives, mais ce verset dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Et je crois que tout part de là. Même l'apôtre Paul va dire que la loi est contenue juste dans ces deux versets, dans ces deux commandements. Et la loi de Christ et se manifeste dans ces deux commandements. Nous sommes dans une saison où nous entendons parler de beaucoup de choses. Il y a des débats, surtout l'année passée, il y avait notamment un débat sur les conspirations, et je ne veux pas aller sur ce chemin-là. Et ces temps-ci, on parle beaucoup de la vaccination, de la quatrième vague. Du passeport vaccinal. On est influencé, on influence, les réseaux sociaux ont un impact, ce qu'on lit, on est étonné, bouleversé, on se pose des questions. Mais je crois que Dieu désire que nous puissions vivre une saine influence. Dieu désire que tu vives une saine influence et que tu deviennes aussi une influence. Je n'ai pas encore été en Israël. Qui a déjà été en Israël? Ok. Qui a déjà vu la mer morte? Est-ce que Eric, tu as déjà vu? Vous avez été en Israël? Vous avez vu la mer morte? Toi, est-ce que tu... Oui, hein? C'est comment la mer morte? Elle est morte, hein? C'est salé, hein? Il paraît que c'est tellement salé que tu ne peux pas plonger dedans. C'est trop dense. Tu flottes. Okay. Et il n'y a pas grand-chose qui vit dedans. À part les extrémophiles. Les extrémophiles, c'est les micro-organismes qui vivent dans des conditions extrêmes. Okay. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose qui vit dedans. Et ma prière, c'est que nous ne devenions pas une mer morte. Ah oui. Vous savez, il y a, je ne suis pas très bon en topologie, là, mais il y a de l'eau qui arrive dans la mer morte. mais il n'y en a jamais qui en ressort. À part l'évaporation, là, mais... Donc, ça devient... C'est très salin. Mais c'est intéressant, il y a quelques mois de ça, vous avez la possibilité de le lire tous les jours dans Ézéchiel. Le livre d'Ézéchiel, il est question d'assainir la mer morte. Il y a de l'espoir, hein? Donc, si tu es une mer morte, il y a de l'espoir pour ta vie. Okay? Vous savez, je crois qu'on devient on peut devenir une mer morte si on n'arrête pas de recevoir et qu'on ne donne jamais. Et je crois que je crois que Dieu veut changer des paradigmes, des concepts, des conceptions dans nos cœurs. Tu n'es pas appelé à être une mer morte et tu ne le seras pas. Et même si tu l'es, Dieu peut assainir l'eau afin que la vie prenne place. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Il est venu donner la vie. En se donnant, il est venu nous réconcilier avec celui qui est la vie. Dieu est la vie. Dieu est lumière. Et je crois que Dieu veut que nous soyons une influence, que nous puissions recevoir de lui, mais aussi déverser. Parce que nous en avons l'autorité, le pouvoir, la capacité, mais nous avons aussi l'appel à le faire. Si tu reçois cet appel, c'est que Dieu t'a outillé pour être une influence. Et vous savez dans quel contexte, j'ai lu Luc chapitre 10, le verset 27, qui, je le répète, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » Le contexte de ce texte, c'est qu'il y avait quelqu'un qui voulait piéger Jésus, lui demandant « Mais c'est quoi le commandement, la règle la plus importante ? Est-ce qu'il faut garder une distance de 2 mètres de tout le monde ?» C'est quoi la règle la plus importante? Tu iras à l'église juste le dimanche. Non, c'est le samedi. C'est quoi la règle? On voulait le pogner. Et Jésus lui a renvoyé la question. Il dit, mais qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Et cet enseignant a dit, justement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et ton prochain comme toi-même. Lorsqu'on s'attache à Dieu, Dieu nous pousse à aimer notre prochain. Lorsqu'on s'attache à Dieu, il y a quelque chose qui prend place en nous, qui nous empêche de rester sur place. C'est pour ça que je bouge un petit peu, ok? Ok, je suis en train de faire la danse carrée. Mais quand tu t'attaches à Dieu, il y a quelque chose qui commence à brûler, Tu veux déverser qui est Dieu autour de toi. J'ai regardé dans le dictionnaire, c'est quoi le mot influence, et il y a une notion de se déverser dans. Et pourquoi je parle de l'influence? Parce que Dieu veut t'influencer, mais Dieu veut nous amener à être des influences. On a été créés pour ça. Je pense que à cause de ça, plusieurs aiment les réseaux sociaux. À cause de la nature de l'être humain, on a besoin d'influencer, on a besoin d'avoir un impact autour de nous. Mais des fois, loin de Christ, il y a cette influence est déformée. C'est comme si on veut répondre à des standards qui ne sont pas ceux de Dieu. Et des fois, on se place sous une domination de valeurs, de principes qui nous avilit ou qui n'honore pas Dieu. Des fois, on va projeter une image. Et même des fois, on va vouloir projeter une image dans l'église, dans notre entourage. Mais Dieu veut nous influencer afin qu'on puisse projeter qui il est et qui nous sommes en lui. Ce matin, je voudrais prendre quelques minutes pour vous parler de Néhémie, parce que c'est un personnage qui en lisant le livre de Néhémie qui est en train d'avoir un impact dans ma vie. Vous savez, on parle souvent de Néhémie comme un leader par excellence. Mais je crois, avant d'être un leader par excellence, il a d'abord été un adorateur par excellence. Un homme qui se tourne vers Dieu par excellence. Ce n'est pas quelque chose qui est intrinsèque, qui est dans ses gènes, dans son ADN. Mais il a puisé cette excellence dans sa relation avec Dieu. Et souvent, on voit et on découvre notre relation avec Dieu quand on est dans les épreuves. Vous savez, Néhémie a vécu à peu près 400 ans, en gros, 450 ans avant Jésus-Christ. Et l'histoire de Néhémie est particulière parce que le peuple d'Israël s'est retrouvé à l'extérieur de la Palestine, à l'extérieur de la Judée, à l'extérieur de la Samarie, parce qu'ils s'étaient éloignés de Dieu. Et vous savez, il y a des principes naturels qui vont nous éloigner de Dieu. Il y a des choses où il y a des choses naturelles qui vont nous éloigner des plans de Dieu pour notre vie. Lorsqu'on ne pense qu'à soi, on a tendance à ne pas aimer notre prochain, mais à vouloir utiliser notre prochain pour notre bien. Okay? C'est avilissant pour ces personnes et ça nous détruit parce que nous sommes des êtres relationnels. Alors, il y a plusieurs principes comme ça, naturels, humains, où si tu ne penses qu'à toi, tu es dans le trouble. Mais il y avait aussi des principes où Dieu a établi son peuple afin d'être une lumière pour les nations, afin de présenter le Dieu de l'univers, afin de présenter au monde, aux nations, le Dieu des nations, l'Éternel des armées, Yahweh. Et le peuple d'Israël est passé à côté un peu de cette mission. Et ils ont décidé de s'attacher à d'autres divinités. Lorsque tu as la vraie affaire, est-ce que tu vas aller chercher une copie? Non. Il y a mon garçon qui me dit, il a des amis autour de lui qui s'achètent des faux souliers de marque. OK? Et puis, mais des fois, c'est des faux souliers de marque de basket, par exemple. Et ses amis ne peuvent pas jouer au basket avec, sinon, le moindre moment qu'ils font un match, la chaussure va se défaire. C'est une copie. C'est juste pour le look, pour le style. Mais quand tu as accès au véritable modèle, tu ne vas pas aller chercher de copie. Et le peuple d'Israël avait accès au véritable Dieu. Mais ils ont choisi d'aller chercher une copie. Et à cause de ça, ils se sont retrouvés en déportation. Et je crois que la pire chose qui puisse arriver à un peuple, à quelqu'un, c'est que pire que perdre ta liberté, c'est qu'on te sorte de chez vous. Qu'on te prenne de ta ville et qu'on t'emmène dans une autre nation. Non seulement qu'on te prive de ta liberté, mais qu'on te prive de ton chez-toi. Vous savez, la pandémie a été stigmatisante. Il y a eu des défis économiques, sociaux, relationnels majeurs. Mais nous avons pu demeurer chez nous. Mais imagine qu'on te prive de ta liberté et qu'on te prive de ton chez-toi. Qu'on te prive de ton salon, de ta cuisine, de ton sous-sol, de ton environnement quotidien. Et le peuple d'Israël a été déporté. Et c'était la pratique de l'époque, les empires, qu'ils soient assyriens, babyloniens ou perses, ils avaient tendance à déporter les peuples lorsqu'ils faisaient la conquête d'une nation. Et c'était le pire qui pouvait arriver à un peuple, ne plus retrouver ton environnement. Et alors que le peuple d'Israël s'est retrouvé déporté, Dieu a commencé à rappeler ses promesses. Même lorsque tu seras déporté, si tu te tournes vers moi, je vais te ramener chez toi. Je vais te restaurer. parce que tu es mon peuple. Et Néhémie s'est retrouvé en déportation. Et une chose qui est particulière, et j'aimerais te dire ceci ce matin, c'est que je crois que Néhémie prophétise, même son nom prophétise sur nos vies, déclare quelque chose qui vient de Dieu. Néhémie signifie l'Éternel a consolé. Et puis moi j'aurais préféré que ce soit l'Éternel console. Mais je pense qu'il y a une dimension de foi, et ce que Dieu déclare dans le ciel, il n'y a personne qui peut s'y opposer. Néhémie signifie l'Éternel a consolé. Et je veux te dire ce matin que Dieu t'a consolé. Mais tu te dis, mais moi je suis en train de vivre un deuil, une épreuve. Comment ça tu peux dire sur ma vie que l'Éternel m'a consolé? Parce que ce que Dieu déclare dans le ciel va prendre place sur terre. Nous vivons des défis. Et lorsqu'on apprend à être un intime de Dieu, à passer du temps dans sa parole et dans sa présence, on va d'abord vivre un changement de perspective avant de voir un changement dans notre condition et dans notre situation. Néhémie était un intime de Dieu. Et nous allons le voir justement dans ce texte, dans Néhémie chapitre 1. Et j'aimerais faire la lecture des premiers versets. On va lire les versets 1 à 4. On ira avec la version second 21 si tu peux la mettre à l'écran. Parole de Néhémie, fils d'Akalia. Durant le mois de Kisleu, la 20e année du règne d'Artaxerxès, alors que je me trouvais à Suse, la capitale, Hanani, l'un de mes frères, est arrivé avec quelques hommes de Juda. Je les ai interrogés au sujet des Juifs rescapés de la déportation et au sujet de Jérusalem. Ils m'ont répondu, les rescapés de la déportation se retrouvent là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres. À cette nouvelle, je me suis assis, j'ai pleuré et j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. On va s'arrêter là. Vous savez, on découvre ce qu'un homme ou une femme porte souvent dans l'épreuve. Et Néhémie a cette nouvelle que Jérusalem avait ses murailles qui étaient détruites, qui avaient des brèches, il s'est mis à pleurer. Vous savez, je me suis posé la question, mais pourquoi? Parce que des fois, on est dans des villes historiques et on voit des murailles ou des ruines historiques d'un site, et puis on trouve ça beau. On va aller à Athènes, et puis on va faire des photos du Panthéon. Mais pourquoi Néhémie était-il aussi affligé? Vous savez, à l'époque, les murailles étaient l'expression d'une sécurité pour ceux qui habitaient dans une ville. Étaient les garantes d'une sécurité pour la population, mais aussi d'une influence régionale. Savoir que la ville a ses murailles en bon état lance le message que ce lieu est sécuritaire et prospère. Et là, en ce moment, pour Néhémie, il y a des Juifs qui vivent à Jérusalem, mais ils ne sont pas en sécurité. Il n'y a pas de patrouille de police à l'époque. Et n'importe qui et n'importe quel type d'animaux sauvages pouvaient rentrer dans la ville et causer du trouble. Et non seulement ça, mais cette Jérusalem avait été méprisée par les habitants des autres nations qui étaient autour de Jérusalem. Et Néhémie était attristé de cette situation. Et ce qui est touchant, j'aime bien cette version, la version parole de vie qui va dire, ils me répondent, les anciens exilés habitent dans la province de Juda, mais ils vivent dans une grande misère et dans la honte. Il y a des trous dans le mur qui entoure Jérusalem et les portes de la ville sont brûlées. En entendant ces paroles, je m'assois et je pleure pendant plusieurs jours. Je reste dans une profonde tristesse. Je jeûne et je me mets à prier le Dieu qui est au ciel. On voit chez Néhémie cette relation avec Dieu. Alors qu'il est affligé, il va se tourner vers Dieu. Alors qu'il est découragé pour ses frères, pour ses amis qui sont à Jérusalem, ce qu'il va faire, il va se tourner vers Dieu. On réalise que Dieu est sa consolation. Il est celui qui renouvelle ses forces et qui lui donne une perspective nouvelle par rapport à une situation qui est éprouvante. Ce matin, laisse-moi te dire que Dieu veut te donner une perspective nouvelle par rapport à ta situation. Parce que Dieu dit sur ta vie, je suis celui qui te console, celui qui te fortifie. Dieu nous appelle, oui, à avoir une intimité avec lui, à recevoir de lui la consolation. Dieu nous appelle à voir comme Néhémie voyait les choses. Néhémie, non seulement, oui, il était juif, il se trouvait dans une ville étrangère à Suse, mais je crois que son intimité avec Dieu, son attachement à la parole de Dieu, a eu un impact sur son caractère. Il est dit de lui qu'il était échanson du roi. Et ce qui est intéressant, un échanson du roi, ce n'est pas quelqu'un qui chante. Okay? Un échanson du roi, c'est une personne de confiance qui veillait à la qualité du vin qui était servi au roi. Les chansons du roi, et c'est particulier qu'un étranger puisse servir à la table du roi de Perse. Donc, cet étranger devait être un homme d'intégrité et de confiance, qui n'acceptait pas les pots de vin, qui n'acceptait pas l'intimidation pour pouvoir un jour nuire au roi. C'était un homme intègre. Parce qu'il avait avec lui des employés, des serviteurs qui devaient être aussi intègres afin qu'on ne puisse pas atteindre à la vie du roi à travers l'empoisonnement de ce qu'il boit. Donc ça fait ressortir le caractère de Néhémie. C'était un homme intègre, un homme de confiance. Et je crois que tu es quelqu'un de confiance, en qui on peut s'appuyer. Mais Dieu ne veut pas seulement que tu sois un homme ou une femme de confiance. Dieu veut t'amener plus loin avec lui. Dieu veut que ton influence aille au-delà de la cour du roi. Vous savez, on peut utiliser cette illustration pour dire, Dieu veut t'amener au-delà du lieu d'intercession. Vous savez, on ne doit pas faire de la prière ou du lieu d'intercession un refuge. Dieu est notre refuge, mais le lieu d'intercession n'en est pas un. Dieu veut nous emmener au-delà du lieu d'intercession. Dieu est en train de déverser. Vous savez, moi je respecte beaucoup les intercesseurs parce que les intercesseurs font l'histoire. Ils se tiennent devant Dieu. Il prie. Il dit, Seigneur, interviens dans telle situation. Il y a des gens dans mon entourage qui m'inspirent. Elle est comme une mère spirituelle. Elle me partage, elle m'a déjà partagé, elle va prier à 22 heures et elle se relève à 6 heures du matin. OK. Et puis quand tu la rencontres, elle dit, OK, on va s'asseoir. et puis elle parle sur ta vie. Ça ne sort pas d'elle. Mais dans son intimité avec Dieu, Dieu commence à lui parler. Concrètement, c'est quelque chose qui peut ressembler à elle prie et elle entend Dieu parler au sujet de Marc, au sujet de Jacques, au sujet de David, au sujet d'Esther. Et dit, tu vois, tu vois ce qu'elle vit, Dieu va ouvrir une porte pour elle. Dernièrement, je connais quelqu'un qui me disait, je suis allé prier, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Et Dieu lui a commencé à lui parler d'une de ses amies. Il dit, Seigneur, je t'adresse un sujet personnel. Et dans l'intercession, dans la prière, Dieu commence à lui parler d'une de ses amies. Voici ce qu'elle vit, voici ce qui se passe. Et dans les 24 heures qui ont suivi, elle a contacté ces personnes et puis c'était à propos. Les intercesseurs sont appelés à faire l'histoire, à déclarer ce que Dieu dit. Mais on ne doit pas faire du lieu de la prière un refuge. Dieu demeure notre refuge. Mais alors qu'il nous remplit, Dieu nous appelle à déverser. Néhémie n'était pas appelé à rester dans la cour du roi et à être un échanson. Dieu avait plus pour lui. Et on le voit, je veux le résumer, mais notamment dans Néhémie, chapitre 10, verset 2, on va lire quelque chose d'intéressant qui dit, voici la liste des signataires. Ils ont signé une entente pour s'attacher à l'alliance, à s'engager, à être attaché à la loi de Dieu. Et il est écrit, juste l'exemple de Néhémie, chapitre 10, verset 2, voici la liste des signataires, Néhémie, fils d'Acalia, le gouverneur. Néhémie est passé d'échanson à gouverneur de Judée. Néhémie est passé de la cour du roi à devenir un homme d'influence. Et je crois que Dieu t'appelle à passer de la cour du roi à un lieu d'influence, un lieu où tu te déverses. Et je crois que nous sommes dans une saison où l'Église doit déverser le royaume des cieux, doit déverser l'amour de Dieu autour de lui. Il y a beaucoup, vous savez, il y a beaucoup d'incertitudes, d'inquiétudes, d'interrogations, de questionnements. Est-ce que ça c'est bon? Est-ce que ça c'est pas bon? Est-ce que le gouvernement fait ce qu'il faut faire? Il y a beaucoup de questions. Mais nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, apporter Luc chapitre 10, verset 27. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a le ciel qu'on est appelé à déverser sur terre. Il y a l'amour de Dieu, la pensée de Dieu qu'on doit déverser autour de nous. Que nous soyons des sportifs, que nous soyons des enseignants, des pères ou des mères de famille, vous devez être des influences. Quittez la cour du roi pour aller dans le lieu de l'influence. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour mon épouse. Elle est patiente envers moi. Tantôt, je vous disais, elle m'a déjà dit, il n'est pas question de toi. Parce que des fois, j'aime rester dans la cour du roi et puis pleurer. Papa, ça ne va pas. Papa, qu'est-ce que tu veux faire? Et elle me dit, mais il n'est pas question de toi. Il est question de ce que Dieu veut faire. Pourquoi tu t'attardes? Ah, ça va pas, mais lève-toi et va. Alors, messieurs, laissez vos épouses parler sur vos vies. Vous êtes appelés à... Vraiment, y a-t-il des hommes dans la place? Y a-t-il des hommes en ligne? Moi, j'ai vu juste... J'ai juste vu... Attends, j'ai pas été clair dans ma question. La réponse est lever la main, ok? Y a-t-il des hommes dans la place? Ok, bon, peut-être on va faire le son, hein? Dites oui. Y a-t-il des hommes dans la place? Oui! Ok? Messieurs, je veux parler. Comme je suis un homme, je peux parler aux hommes, OK? Messieurs, vous êtes appelés à quitter la cour du roi pour aller dans le lieu de l'influence. Vous portez plus que vous pensez. Vous portez tellement. Vous savez, les hommes sont des thermostats dans un foyer. Mais vous êtes aussi des thermostats là où vous allez. Ça, c'est vous n'êtes pas des thermomètres, vous ne prenez pas la température. Vous donnez la température. Vous êtes en crise, vous êtes capable de donner une température, d'imposer soit le froid, soit la tiédeur ou soit la chaleur. En hiver, quand il fait trop froid, vous pouvez emmener la chaleur. Vous portez en tant qu'homme, vous portez cette capacité d'influencer et de changer la température d'un lieu. Alors imaginez, si vous êtes des hommes qui se tiennent dans la cour du roi et que le roi vous relâche pour aller dans un lieu d'influence, vous allez bouleverser cet endroit. Vous allez amener la restauration. Vous allez amener l'espoir. Vous allez fortifier. Vous savez, nous sommes dans une génération où nous avons traversé des générations où les hommes ont eu peut-être de mauvais modèles, mais on les a tués, on les a retenus. Et vous devez être relâchés. Le roi vous relâche pour être dans un lieu d'influence. Et la source, votre source, c'est Luc chapitre 10, verset 27. Dieu vous switch de modèle. Vous change de modèle. Vous êtes, messieurs, vous êtes appelés à quitter le modèle d'Adam pour embrasser le modèle de Christ. Dieu vous appelle à quitter le modèle de celui qui prend la vie pour embrasser le modèle de celui qui donne la vie. Messieurs, vous portez cela. Toi qui es en ligne, tu portes ça. En Christ, tu portes cela. Tu n'as plus l'ADN d'Adam. Mais Jésus est mort à la croix pour que tu aies son ADN. Pour que tu sois un variant efficace, excusez-moi. Qui fait des ravages, qui apporte la vie. La Bible dit que par Adam, la mort est venue. Donc, vous savez, c'était tellement clair. Quand Dieu a parlé à Adam, il a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Ah, mais j'ai pris le fruit que la femme que tu as mis à mes côtés m'a donné. Ça, c'est prendre la vie. Hein? Non, c'est de sa faute à elle. C'est de sa faute, tu vois. Tu l'as mis, en plus, c'est de ta faute. Tu l'as mise à mes côtés. J'ai pris le fruit, je l'ai mangé. C'est de sa faute, mais en fait, c'est de ta faute. Tu l'as mise à mes côtés, il ne fallait pas. Hein? Ça, c'est le modèle d'Adam qui prend la vie. Et il y a le modèle de Jésus. Et pourquoi je vous dis que Dieu nous appelle à embrasser le modèle de Christ? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Vous êtes appelés à être des donneurs de vie. Nous sommes appelés à donner la vie. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Néhémie a marché dans ce principe-là. Il a donné la vie. Il s'est battu dans le lieu d'influence. Est-ce que le lieu d'influence est exempt d'épreuves? Non, il y a des épreuves. On va en parler dans quelques temps. Mais Mais je pense qu'on peut aussi encourager les femmes. Les femmes, je crois, portent l'écosystème pour que le ciel se manifeste. C'est pourquoi il faut écouter les femmes, hein, messieurs, il faut écouter vos épouses. Jeunes gens, il faut écouter vos mères. OK? Mon gars est parti. Parce qu'il savait que j'allais dire ça, non, il ne savait pas. Mais vous êtes de celles qui établissent un écosystème favorable à l'œuvre du ciel. Et ça, c'est parce que il y a cette faveur sur vos vies d'aller dans la cour du roi et de plaider une cause et d'avoir la faveur de Dieu, la faveur du roi. Dieu défend la veuve et l'orphelin. Il ne défend pas le veuf, je ne comprends pas. C'est un mystère. Dieu défend les femmes. Et je veux vous encourager à suivre, à vous joindre à l'étude biblique du mercredi. C'est de l'or en barre, c'est du chocolat. C'est vraiment là, c'est délicieux. C'est délicieux, c'est inspirant, ça nous pousse, ça nous propulse. Il y a une sœur qui a dit que c'est combien c'est bon d'être avec des frères et de partager les Écritures. Parce qu'il y a une compréhension, mais on verbalise aussi ce qu'on saisit, ce qu'on comprend, et ça nous inspire. L'évangile de Luc qu'on étudie actuellement, et j'ai aimé ce que pasteur Christophe apporte. Les premiers chapitres mettent de l'avant deux femmes, Élisabeth et Marie. Et il y a des oppositions faites volontairement. Zacharie, qui est le mari d'Élisabeth, ça vous dit quelque chose, les premiers passages de Luc? Zacharie et Élisabeth sont les parents de Jean-Baptiste. Et Zacharie tu sais, si tu vois un ange, tu vas quand même croire ce qu'il te dit, tu sais. Et Zacharie a eu de la misère à croire. Mais qu'est-ce qui me garantit que ce que tu me dis va prendre place? Oui, mais t'es à l'ange qui t'apparaît, qui te parle de la part de Dieu. Qu'est-ce que tu veux d'autre? OK? Mais Marie a saisi cette promesse. Qu'il en soit fait pour ta servante, comme tu l'as dit. Mais vous savez, à l'époque, la parole d'une femme n'avait pas beaucoup de valeur. Et Jésus... C'est le témoignage de cette femme. Jésus est venu sur terre de façon humble. Et l'apôtre, l'évangéliste Luc rapporte d'abord ce que ces femmes ont vécu, leur témoignage, les louanges qu'elles ont fait monter à Dieu. Si on voulait donner de la crédibilité au texte, et selon les normes de l'époque, on n'aurait pas fait parler des femmes, on aurait fait parler des hommes. Mais vous savez, Dieu aime bien mettre l'écosystème adéquat en passant à travers les femmes. Rétablir sa vision de la femme. Elle est digne de confiance. Elle déclare ce que Dieu dit. Et elle permet à ce que Dieu dit de prendre place. Elle obéit, elle se soumet à Dieu. Elle lui fait confiance. Vous êtes, je pense, en tant que femme, vous êtes appelée à être dans la cour du roi comme Esther, mais à pouvoir aller dans le lieu d'influence et à bouleverser un écosystème, à bouleverser des façons de penser. Néhémie était dans la cour du roi et Dieu l'a appelée à aller dans un lieu d'influence pour rebâtir, pour restaurer des murailles. Parce qu'il savait que l'intégrité et le bonheur de ce peuple passait par là, par une restauration des murailles de Jérusalem. Et en ce moment, Dieu veut restaurer la confiance en lui. Et il veut passer à travers son Église. Il veut passer à travers des hommes et à travers des femmes, à travers des hommes qui peuvent changer l'atmosphère, qui peuvent changer la température. Dire oui, peut-être que tu es déçu, mais fais confiance à Dieu. Et lorsqu'une et quand Dieu parle à travers une femme, il place l'écosystème, il dit, mais Dieu va agir dans ta vie. Dieu me l'a dit, ça va prendre place. Nous devons être des hommes et des femmes d'influence. C'est ça notre destinée. Si ta vie a été chaotique, si ta vie a été trouée, fait plein de brèches, Dieu veut rebâtir, veut boucher les murailles, restaurer ta confiance en lui, afin que tu sois une influence. J'aimerais inviter l'équipe de louanges. Ce matin, je veux t'encourager à quitter le lieu de la cour. Et si tu n'as jamais été dans la cour du roi, c'est très simple, tu passes à travers Jésus. Jésus te conduit à la cour du roi. Jésus est celui qui te conduit à la cour du roi des rois. C'est très simple. Il est le chemin. Il est celui, il est viable, il est fiable, il est la vérité. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Si tu as été déçu par des hommes, si tu as été déçu par des personnes, tu ne seras pas déçu par Jésus. Si tu as été déçu par des pasteurs, je te demande pardon. Mais Dieu ne va jamais te décevoir. Jésus ne te déçoit, ne peut pas décevoir un être humain. Il est le chemin, la vérité, celui qui est fiable, celui qui est solide, sur qui on peut s'appuyer. Et il est la vie. Oui, nous sommes, vous savez, Néhémie, il est retourné à la cour du roi. Et je pense que c'est une image d'une réalité spirituelle. On est toujours appelé à revenir dans la cour du roi, dans l'intimité avec Dieu. Mais on n'est pas appelé seulement à être dans l'intimité avec Dieu. On est appelé à être dans le lieu d'influence. Ta présence au travail apporte la faveur sur ton entreprise, sur ton lieu de travail. Ouvre la porte, tu es comme une porte du ciel pour des gens. Parce qu'à travers toi, ils vont voir Christ. À travers toi, ils vont entendre Christ. Ils vont entendre sa parole. Vous savez, Dieu veut être une influence dans nos vies. Et vous savez, Dieu est l'original. Tout ce qu'il fait, personne ne l'a fait avant. T'sais. Il est le premier en toute chose. Et malheureusement, l'ennemi va chercher à copier ça. Puis c'est quand même une pâle copie. Moi, je préfère porter des Air Jordan, puis jouer au basket, que je trouve quelque chose de bonne qualité que prendre une pâle copie. Au bout de quelques matchs, la semelle se décolle. T'sais. Dieu, il n'y a aucun être semblable à lui. Et nous sommes appelés, oui, à aller dans la cour du roi. Mais le roi nous envoie aussi dans le lieu d'influence. Et si nous saisissons cela, les fleuves d'eau vive vont couler dans la mer que nous sommes et nous allons déverser cette faveur dans la vie de d'autres personnes. J'ai déjà eu l'occasion de prier pour les besoins d'une personne et de réaliser combien Dieu exauce cette prière. Il y a quelques années de ça, dans mon cœur, mon esprit a été saisi. Et Dieu m'a dit, il est temps. Il est temps pour cette personne de se marier. Et bien honnêtement, elle n'était pas sous mon radar de prière. Je ne priais pas pour elle pour qu'elle se marie. Et ce soir-là, alors qu'on était en famille, le Saint-Esprit est en train de convaincre mon cœur, dire il est temps pour elle de se marier. Le temps, c'est comme il y a eu un décret du ciel concernant sa vie. Si je m'étais tu, si j'étais resté dans la cour du roi, ça aurait pu retarder ce que Dieu avait déclaré. Ou Dieu aurait pu me dire, ok, tu veux pas collaborer et m'obéir, je vais prendre quelqu'un d'autre. Mais j'ai eu cette grâce de pouvoir être utile entre les mains de Dieu pour apporter la vie, l'espoir. Et elle s'est mariée cet été. Et ça faisait un temps qu'elle attendait. Un autre moment, je priais à la maison et le nom de quelqu'un est venu sur mon cœur. Appelle-la et encourage-la. Et cette personne, vraiment, Dieu l'a placée comme prophète. Elle a vraiment une dimension prophétique, d'intercesseuse. Et dit, appelle-la et encourage-la. Je l'appelle et je l'encourage. Et elle me dit combien elle était abattue, découragée. Et je ne me souviens même pas ce que je lui ai dit. Mais des années plus tard, lorsqu'on est avec des amis ou en public, elle rend ce témoignage qu'un jour je l'ai appelée et je l'ai encouragée et combien ça tombait à point. Marche dans ton lieu d'influence. Tu es appelé à cela. Et bien honnêtement, il n'est pas question de nous. Il est question de ce que Dieu veut faire à travers nous. Tu auras ta récompense auprès de Dieu. Tu auras cette couronne de gloire lorsque tu seras dans la présence de Dieu. Et cette couronne, la gloire de cette couronne sera incommensurable par rapport à la gloire sur cette terre. En ce moment, Dieu fait de nous des ambassadeurs pour Christ. Dieu fait de nous des hommes et des femmes d'influence. Nous, tu n'es pas appelé à être la mère morte, ce n'est pas ta destinée. Tu es appelé à porter la vie, à communiquer la vie. Ce matin, pour conclure, si tu veux faire ce pas de quitter, de laisser Dieu te pousser, le roi te pousser de la cour du roi vers le lieu d'influence, je veux t'inviter à te lever. Si tu n'as jamais été dans la cour du roi, Jésus t'y invite. Laisse Jésus être le roi de ta vie. Laisse Jésus être le roi de ta vie. Il est fiable. Il est digne de confiance. Laisse-le être le roi de ta vie. Tu ne seras pas déçu. Néhémie n'a pas été déçue. Esther n'a pas été déçue. Ce matin, c'est ces deux appels que je fais. Si tu désires passer de la cour du roi et laisser le roi te pousser vers le lieu d'influence, tu dis, mais Seigneur, c'est quoi mon lieu d'influence? Ton lieu d'influence, c'est là où tu vis. Que ce soit au travail, à l'université, au cégep, le lieu où tu évolues, c'est d'abord ton lieu d'influence. Si tu n'as jamais été dans la cour du roi des rois, si tu n'as pas fait la paix avec Jésus, si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, vous savez, Dieu, il est le roi. Hors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Et même si tu ne crois pas que Dieu existe, ça ne change pas la vérité. La Bible nous présente qui est Dieu. Et le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu des religions. Le Dieu de la Bible est digne de confiance. Le Dieu de la Bible s'intéresse à ton bonheur. La semaine passée, j'ai glissé un mot sur ça. Il s'intéresse à ton bonheur. Il veut que tu sois heureux. Alors, si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, si tu ne lui as pas donné ta vie, je vais te donner l'opportunité de le faire. Si tu n'as jamais été dans la cour de roi, je vais t'inviter à te lever avec nous. Et je vais inviter l'Église à prier, à répéter cette prière, parce que je ne veux pas que tu... Dieu ne désire pas que tu sois hors de sa cour. Vous savez, j'aime cette illustration de Méphibosheth, qui était un jeune homme qui était boiteux, il avait des handicaps, il avait des failles. Et il a été accueilli à la cour d'un roi, le roi David, à sa table. Et cela illustre une réalité spirituelle. Peu importe tes failles, tes manquements, tes handicaps, Dieu t'appelle à entrer dans sa cour, dans le lieu où il règne, et à manger à sa table. Peu importe ce que tu as fait, cette invitation se fait à travers Christ. Jésus est l'invitation. Jésus est l'accès au roi des rois. Et lorsque tu viens à la table du roi des rois, à travers Christ, tes infirmités sont ôtées. Ton cœur est changé. Seigneur, je veux prier pour ceux qui se tournent vers toi. Seigneur, tu les invites, tu leur as lancé cette invitation de venir à ta table et à rentrer dans la cour du roi, à manger à ta table, à demeurer auprès de toi. Et cela à travers Jésus-Christ. Seigneur, je veux prier pour ces gens, pour ces personnes. Et je veux les inviter à répéter après moi. Seigneur Jésus, je me tourne vers toi. Et j'accepte ton sacrifice à la croix. Tu es mort à la croix pour moi, pour mes péchés, afin que je puisse être réconcilié avec Dieu. Et venir à la cour du roi des rois. Je te demande pardon pour mes péchés. Je me détourne de ces œuvres-là. Et j'accepte ton sacrifice à la croix, qui me donne accès à la cour du roi. Non pas en tant que serviteur, mais en tant que fils et en tant que fille du roi des rois. Prends ma vie, prends mon cœur. Je veux demeurer avec toi pour l'éternité. Amen. J'aimerais prier aussi pour ceux et celles qui veulent quitter le lieu de la cour du roi. Il y a des choses, vous êtes appelés à être une influence, ça c'est clair. Et qui veulent rentrer dans le lieu d'influence, être une influence autour d'eux. Seigneur, je prie non seulement pour ceux qui sont au carrefour en présentiel, mais pour ceux qui sont en ligne. Seigneur, il y a cette perspective. Seigneur, que comme Néhémie, Seigneur, alors que nous nous tenons dans ta présence, Seigneur, tu nous appelles à être des influences, à t'aimer, mais à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Seigneur, je prie, Père, Seigneur, pour ceux et celles qui se lèvent et qui désirent être une influence, être dans le lieu d'influence et d'apporter la vie. En Christ, nous sommes départis du modèle d'Adam. pour embrasser le modèle de Christ, pour être des donneurs de vie. Et Seigneur, je prie, Père, Seigneur, qu'il y ait, Seigneur, que tu puisses les revêtir de ton onction pour le mandat qui est sur leur vie, d'être une influence, d'apporter la vie là où ils se trouvent. Seigneur, tu es avec eux. Et Seigneur, tu leur demandes simplement de communiquer ta parole et d'aimer leur prochain comme eux-mêmes. Seigneur, je prie, Père, que l'évangile de Jésus-Christ soit annoncé à travers eux, par leur vie, par leur vie, par leur témoignage, par leur action, afin que ta gloire soit manifeste dans cette ville, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Cela conclut notre culte. Je veux aussi terminer en remerciant tous ceux qui participent au programme J'aime mon quartier. Nous sommes en train de faire la peinture dans des locaux du collège. Nous voulons aimer ce collège. Nous voulons avoir la pensée de Christ, manifester l'amour de Dieu. Et je réalise que c'est du boulot des fois d'aimer. Mais c'est bénissant et vraiment je veux remercier tous ceux et celles qui participent à ces travaux. Demain, nous allons en faire. Oui, demain, nous allons faire des travaux encore au collège. Demain après-midi, de 14h à 16h, il y aura un 2h si vous voulez vous joindre à nous. Mais suivez-nous sur les réseaux sociaux. Parce que nous allons indiquer d'autres dates où nous allons faire des travaux. Je sais que plusieurs travaillent, mais s'il y en a qui sont en congé et qui veulent donner une coupe d'heure. Si vous voulez une visite guidée aussi, vous pouvez venir me voir. Je vais vous montrer ce que nos frères et sœurs ont fait. Vraiment, ce sont des Néhémie, hein, ces gens-là. Là. Ce sont des hommes et des femmes d'influence. Vous savez, le collège nous a permis de diminuer notre loyer de pratiquement 50%, et ils nous ont demandé si on pouvait simplement les aider pour certains locaux. Et nous avons désiré les bénir, aimer. Et je pense qu'aimer notre quartier, ça commence par ici. Mais je crois que Dieu aussi va mettre sur notre cœur d'autres organismes, d'autres environnements où nous allons aussi manifester l'amour de Dieu et devenir une influence. Je veux aussi remercier tous ceux et celles, et on va vous donner des nouvelles, tous ceux et celles qui ont fait des dons pour les sacs à dos. Mais bientôt, on va vous donner des nouvelles de tout cela. J'ai vu que les sacs se préparent super bien et on veut vous remercier parce qu'on veut aimer aussi les enfants sans arrière-pensée. On veut simplement bénir des familles, qu'ils sachent que Dieu les aime, que Dieu les aime et que Dieu n'attend rien en retour, mais simplement qu'ils sachent et qu'ils goûtent à l'amour de Dieu. Et de façon concrète, nous sommes en train de le faire. Alors, soyez bénis. Je clôture le culte. Il est officiellement terminé. On vous souhaite un bon dimanche et à mercredi pour l'étude biblique. Vous allez être vraiment bénis et dynamisés. OK? Alors, bon dimanche à tous.